Il est 22h. Radio Campus Paris 93.9. Un lundi sur deux, de 22h à minuit.
Bonsoir à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Campus Paris 93.9 dans l'émission Éther et Crac. Ce soir, l'équipe au grand complet avec Benjamin à mes côtés.
Salut.
Moi, Camille.
Salut.
Ouais, Ambroise qui a la technique sans qui rien ne serait possible. Et ce soir, on a le plaisir de recevoir Andy Bolus, aka Evil Moisture. Salut,
salut.
Andy. Donc on va écouter un live de toi d'ici quelques minutes. On va juste commencer par un morceau de Frustros, un groupe de Lyon qui a sorti un 45 tours il y a un an ou deux, enregistré au Grand Zero, lieu assez important dans la scène lyonnaise, qui est en plus ou moins en suspens aujourd'hui, avec une belle pochette dessinée par Lucas, le chanteur de Ventre de Biche, leader de Sida, etc. Voilà, on va écouter Frustros, devenir toi.
Si ça veut bien se lancer.
Évidemment, sinon on va peut-être pas l'écouter, on va peut-être écouter autre chose. Ok,
ça marche pas.
C'est pas grave. Il doit y avoir encore une platine débranchée pour changer. Du coup, on va peut-être commencer avec l'interview d'Andy, du coup, directement.
Ok.
Juste pour que les gens puissent te situer, ça fait plus de 20 ans que maintenant que t'es dans la musique noise.
Yeah, j'ai calculé, c'est 25 ans.
25 ans maintenant.
Est-ce qu'il y a quelque chose de très précis
Oui, j'ai calculé, c'était l'anniversaire il y a un mois.
Un mois, Devil Moisture.
Oui.
Et du coup, tu as commencé par des études d'art, c'est ça? En Angleterre?
Ouais, j'ai fait des beaux-arts en Angleterre.
Tu as fait des beaux-arts en Angleterre?
Oui.
Tu viens de quelle ville à la base, du coup?
Né en quelle ville?
T'as grandi où en
Dans le sud d'Angleterre. Une heure de Londres par voiture, mais plus sud.
D'accord. Oui. Et du coup, tu es arrivé à Paris il y a 20 ans?
Il y a 15 ans.
15 ans maintenant? Oui. T'as vécu à la même roterie pendant des années, du coup?
Ça fait 8 ans, oui.
8 ans là-bas?
Oui.
Et pour situer un peu ce lieu, donc c'était un squat rue de Ménilmontant qui a fermé ses portes il y a 3 semaines maintenant, 2 semaines?
Oui, on a toujours accès, mais c'est fermé, oui.
Et tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé?
Bon, on avait une expulsion prévue depuis 4 ans. Et on a bossé avec les avocats, on a trouvé des délais, mais éventuellement l'avocat ne peut plus rien faire. Et on avait un effondrement de mur juste avant un concert de punk finlandais, je pense.
Ouais.
Pas terrible, mais. Et bon, non, mais. Je ne sais pas, parce qu'on a pas écouté le concert. Et puis, 2 jours plus tard. Quelqu'un a mis un incendie et il a mis de l'essence. Il y avait une vieille voiture et quelqu'un a brûlé la voiture. Et après, c'est à vous de sortir tous les conspiracy theories et tout ça. On ne sait pas si c'était le propriétaire, si c'était la mairie, si c'était les skins, les Nazi skins. Il y a des gens qui pensent comme ça. Mais
ouais.
On ne sait pas, mais moi, je pense que c'était quelqu'un qui voudrait dépêcher
le départ du
procès, oui. Et fait peur aux gens. Et bon, ça marche bien.
D'accord.
De toute façon, le bâtiment est en train de s'effondrer.
Ouais.
Comme une blague, pendant des années, j'ai dit que ça va s'effondrer avant que nous on bouge. Et en fait, c'est un peu au même temps. C'est une ruine. Et c'est, pour moi, ça me donnait une façon de trouver les, de regarder des autres possibilités et tout ça.
Ouais.
Tant mieux.
D'accord.
Donc du coup, à la miroiterie, on peut dire que c'est plus ou moins terminé quand même.
Ouais, je sais pas si il y a des gens qui veulent ouvrir une miroiterie mais ça c'est plutôt pour les concerts et parce qu'il y a une sacrée réputation maintenant pour les concerts de punk spécialement, mais moi j'en ai marre d'habiter dans une salle de concert, alors pour moi, au début c'était un squat artistique, mais c'était plus en plus les concerts et moins en moins pour les artistes. Mais à l'époque, pendant longtemps, on a fait des portes ouvertes, choses comme ça, mais faut pas oublier qu'à la base c'était une squat artistique et qu'il y a, il y a deux artistes, deux peintres qui sont là. Et eux, ils sont un peu comme moi, ils veulent plutôt chercher les autres ateliers.
Un endroit pour travailler en fait.
Pour travailler dans le calm, oui, pas avec le concert, oui.
D'accord.
C'est une page qui se tourne. Quoi.
C'est une page qui se tourne à Paris, en effet. Et du coup, comment est-ce que tu as découvert la noise et la musique expérimentale? Comment tu as commencé à en faire?
L'école, quand j'avais 13 ans, je pense un de mes meilleurs potes, il a bossé pour Virgin. Et les disques de... Il avait beaucoup de vinyles gratuits.
Ouais.
Et lui, il m'avait donné tous les vinyles qu'il a trouvé trop bizarres. Parce que moi, j'étais déjà un peu dans la musique gothique et les choses comme ça. Ouais. Et il m'avait donné les quatre premiers disques de Faust, trois ou quatre premiers. Ouais. Spécialement Faust Tapes, ça m'a beaucoup inspiré. Et bon, pas loin après, j'ai découvert... il y avait une bibliothèque... de musique à l'école aussi qui était vraiment pas mal et j'ai fait une réaction un peu contre mon pote qui dit que c'est trop bizarre, c'est trop weird, alors j'ai pensé ok, j'aime le weird, j'ai regardé j'ai trouvé tous les Stockhausen, Zenakis, John Cage et tout ça et
donc plus la musique académique contemporaine,
oui, mais n'importe, oui, mais aussi, il y avait des disques de sound effects, comme les effets sonores, les disques comme ça. Et mon papa aussi, il a collectionné des vinyles des enregistrements de train.
D'accord.
Il y avait un disque qui s'appelle Trains in Trouble, qui était quatre morceaux de les vieux trains dans le dernier voyage à la comment dire, scrapyard.
Ouais.
Et c'était vraiment... c'est comme un disque de New Blockaders ou quelque chose comme
ça.
Mais bon, aussi, moi j'ai déjà parlé de ça un peu quand j'avais fait la conférence l'autre semaine, mais que je suis enfant, j'ai beaucoup aimé les scientistes fous, les laboratoires, le côté un peu Frankenstein aussi. Mm-hmm. Et ça marche bien dans la musique aussi, je pense.
D'accord. Et comment t'es arrivé à faire de la noise en fait? À quel moment tu t'es dit que toi aussi tu voulais faire ça, que tu pouvais faire ça?
Je sais pas, j'ai joué guitare et j'ai joué pas mal guitare. Mais déjà j'ai fait tous mes tunings différemment, j'ai fait des chords bizarres j'ai commencé à fabriquer les effets, les choses comme ça. J'ai aimé la musique comme Throbbing Gristle et Swans et choses comme ça, et j'ai fait de la musique un peu pareil. Bon.
Et du coup, tu avais déjà une espèce de passion vers la construction d'effets, vers l'électronique à ce
oui,
moment-là,
oui,
dans,
oui,
vers,
oui.
Dès ton adolescence?
Oui. Mais j'avais pas de... j'étais pas capable de faire grand-chose, mais bon, j'ai fait des choses avec les speakers et les microphones pour faire les last scènes, ou juste faire les sortes de reverb, mettre les speakers sur les morceaux de metal.
D'accord.
Et du coup, pour rebondir sur ta découverte de la musique noise, tu dis que tu as commencé à triturer des objets et tout. Et du coup, comment tu es arrivé à cette pratique du circuit bending? Si tu pouvais expliquer un petit peu aux auditeurs brièvement ce que c'est.
C'était un peu par hasard, comme les autres gens. J'ai découvert que tu peux toucher les circuits et ça fait les oscillations, ça fait les feedbacks, des choses comme ça.
C'était une pratique que tu connaissais déjà avant?
Non, non.
Ok.
Ah, il y avait un disque de Boyd Rice. Mm-hmm. Boyd Rice et Frank Tovey,
Listening for the Art of Hearing.
Et il y avait ça et un autre disque. Et je savais que lui utilisait les platines, mais dans une
autre utilisation que l'écoute.
Oui, voilà. Et moi, j'ai commencé à fabriquer les platines qui fait aussi des sortes d'interrupteurs. Alors, c'est une sorte de séquenceur que tu peux couper, par exemple, quatre cassettes en même temps que la platine tourne.
D'accord, ouais. Et c'est comme ça que tu as commencé à mettre les mains là-dedans et à te spécialiser vers ça, en fait.
Oui, oui.
D'accord. Et dans ta pratique... musicale. Du coup, enfin, moi j'ai vu des lives de toi aussi où tu utilises des bandes, des Revox. Mm-hmm. Et donc, à quoi tu composes en partie maintenant? Est-ce que tu composes en grande partie avec des objets que tu crées toi-même, avec des bandes? Comment est-ce que tu sépares un peu toutes ces choses-là?
Au début, j'ai travaillé juste avec la bande et j'étais plutôt dans le collage. Et j'ai fait tout le montage avec bande.
Ouais.
Et bien sûr, j'ai fait des expériences avec les boucles et les échos et les choses comme ça. Mais ouais, maintenant, je fais le montage sur ordinateur parce que c'est plus rapide.
Et que c'est plus dur de trouver des bandes aujourd'hui qu'avant, peut-être.
Ouais, non, mais j'ai toujours un stock. Un archive, oui, j'achète et j'utilise pour, un peu pour le son. Parce qu'il y a une sorte
un grain en particulier.
Oui, oui. Et aussi, tu peux manipuler la bande et c'est difficile. Il n'y a pas vraiment un plugin qui fait la même chose.
Ouais.
Et aussi, je pense que monter sur ordinateur, c'est différent. Au début, j'avais un ordinateur et j'étais fasciné parce que tu peux être hyper précis.
Ouais.
Mais avec la bande, il faut beaucoup de... C'est très approximatif, mais dans un sens, c'est mieux que c'est approximatif. Et c'est un peu...
Oui, il y a un aspect d'accident.
Oui, voilà. Oui, oui. Et après, on se fatigue avec la précision de l'ordinateur aussi. Quand j'ai commencé à faire le premier montage, j'ai fait un morceau d'une seconde qui est avec 500 edits. Donc mm-hmm. C'est pas vraiment la peine. Après, maintenant, j'essaie aussi de faire des edits un peu approximatifs. J'ai fait un morceau, j'ai pas écouté le morceau quand j'ai fait le montage.
D'accord.
J'ai écouté après et il y a des surprises. Oui.
D'accord. Bah on peut du coup écouter le morceau que t'as préparé pour l'émission maintenant.
Oui, ok. Oui.
Si tu veux. Cool.
Je peux juste dire...
Bien sûr, explique oui, enfin, comment tu l'as... Parce que je me dis que c'était plus psychédélique
oui,
d'habitude.
Oui, c'est enregistré avec une nouvelle machine que j'ai achetée. C'est fabriqué par Martin House, qui va faire un truc au Gaieté Lyrique, je pense, en juillet.
D'accord.
Mais il est un de mes ingénieurs fous préférés, vraiment. Et c'est une machine qui s'appelle Black Death. Et ça veut dire peste noire, je pense.
Oui, oui, ouais. C'est ça.
Et il y a aussi un groupe de black metal.
Oui. Peste noire en France, il y en a aussi.
Oui. et bon, c'est une sorte de sample, complètement aléatoire. Et oui, c'est... Moi, je dis que c'est psychédélique, mais...
Ce n'est pas la définition classique
non.
psychédélisme.
Non.
D'accord.
On verra.
On va écouter ça tout de suite. We'll be right back. De retour dans les studios d'Ether et Crac, Radio Campus Paris, avec à l'instant donc un enregistrement de Ville Moisture qui est à nos côtés. Donc un enregistrement que tu as fait spécialement pour cette émission.
Oui.
Avec donc, comme tu nous l'expliquais, un sampler aléatoire, une nouvelle machine que tu as acheté il n'y a pas longtemps.
Oui, oui. qui s'appelle Black Death, fabriqué par Martin House. Et c'était aussi avec beaucoup d'autres machines que j'ai.
Que tu fabriques. Aussi.
Oui.
Dans, il y a une vidéo que j'aime beaucoup de toi avec Tristan Favre,
oui.
Où on te voit plugger de la viande crue. Et du coup, comme aussi ton site s'appelle School of Meat Cutting, mm-hmm. Du coup, je voulais te demander quel rapport tu avais à cette espèce de côté très organique à la viande crue, à la chair animale ou même humaine.
Ça a commencé comme une blague, une sorte de blague. Contre mes amis comme Rudolf Eber, par exemple, qui est un peu dans le body art et qui est relié avec l'actionnisme viennois,
ouais.
Comme Günther Bruce et tout ça. Et aussi, c'était un moyen d'avoir un côté visuel. J'aime pas trop l'idée de juste mettre un film d'horreur en même temps que je joue. Je préfère que. Si j'ai vraiment besoin d'un visuel, je préfère que ça corresponde. C'est aussi un peu une blague contre le circuit bending, qui est vraiment là où tu as des body contacts, des points en contact qui changent la fréquence. Et c'est une sorte de blague de noise, un peu prendre ça, mais aller dans un extrême avec ça. Alors c'est avec la, idéalement, c'est avec la chair humaine. Mais, bon, ouais.
C'est plus simple de le faire avec de la chair animale.
Oui, c'est pas très légal.
Et du coup, on trouve aussi cet aspect dans tes peintures et tes collages, etc. Un aspect très cru et assez influencé par le gore et certains films d'horreur. Comme genre, tu parles souvent de Jess Franco ou de Jean Rollin,
mm-hmm.
qui sont des influences pour toi.
Oui, oui, oui. Aussi les bandes dessinées en France, ça s'appelle LV France,
ouais.
Qui sont comment dire, les BD du gars, on peut dire ça. Je suis intéressé par les choses que à l'époque tout le monde avait peur de mettre une valeur sur ça parce que c'était peut-être côté masturbatoire aussi pour les adolescents. C'était un truc vraiment jetable. Mais dans un sens aussi, c'était pour les dessinateurs, c'était une sorte de carte blanche de faire ce qu'ils veulent, tous les perversions, tous les. Les choses qui est aussi dans les films de Jess Franco, John Rollin et plein d'autres, mais les choses, tu n'es pas obligé de parler d'un budget, de penser à un budget si c'est juste des dessins. Mais, j'ai fait aussi des effets spéciaux aux Beaux-Arts, j'ai fait un peu réaction contre le Beaux-Arts, alors j'ai dit que je vais faire des films d'horreur, alors j'ai fait des... c'était marrant, mon prof vidéo, elle était ultra féministe, mais par contre, elle a étudié les effets spéciaux gore.
D'accord.
Alors, elle a fait un film qui s'appelle Kensington Gore, parce que les studios de télé, c'était en Kensington Gore. Une sorte de jeu de mots, mais elle m'avait appris comment faire les moules et le latex et les choses comme ça, comment faire du faux son. Ouais.
D'accord. Est-ce que dans lors de ta conférence que tu as fait lors de Sonic Protest à la Générale, tu as diffusé ta première vidéo, je crois.
Mm-hmm, oui.
Et il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est un espèce de. Enfin, quelque chose d'assez classique dans les films d'horreur, c'est le côté. D'innocence qui est perversifiée et qui se transforme en quelque chose d'horrible en fait, et comme tu avais plein de peluches, de jouets, il y avait un espèce de rapport à l'enfance en fait un peu détourné et que tu rendais gore ou horrible par ce biais-là.
Mm-hmm. Bon, oui, mais j'ai un problème avec ça parce que souvent les gens imaginent que j'avais une enfance horrible, mais en fait non, c'était super en fait. Mais... et c'est pour ça que j'ai arrêté un peu le circuit bending per se, parce que souvent il y a des questions comme ça, comme dans le travail de Mike Kelly par exemple, mm-hmm. qui a fait des objets avec des poupées jetées, abandonnées, ouais. Sales et abîmées et tout ça. Lui il avait le même problème, mais comme il essaie de dire quelque chose avant que les critiques disent quelque chose. Mm-hmm. Lui, il a prévu ça et il a commencé à penser à sa naissance et son enfance et il a fait du travail exprès comme s'il avait des traumas dans son enfance, mais en fait non, mais oui. C'était complètement faux. Mais. Pour moi, c'est pas un côté... Tetsuo, quelque chose comme ça, mm. ou côté Survival Research Laboratories, ouais. peut-être. Une idée de comment dire, fanfare, c'est pas les roller coasters, mais possédés par quelque chose qui vient en haut contrôle. Peut-être un côté Hans Bellmer aussi, mais version. Version trash, peut-être, version bis.
Oui.
Mais ça, ce film, c'était la base, c'était les petits chiens robotiques que il y a les gens qui les vendent dans le métro, qui fait un son horrible, et c'était plutôt une réaction contre le fait que ça t'énerve et t'as envie de le détruire.
Ouais.
Et j'ai enlevé la peau et j'ai mis du peau de poule.
Ouais.
J'ai cuit ça. J'ai laissé dans le frigo pendant quelques jours et avec la musique super comment dire romantique musique de librairie comment dire c'était un film de Doris Wishman en fait Let Me Die a Woman, c'est un film sur les opérations
je me rappelle transgenre
qui est aussi dans le film, la musique, c'est complètement absurde d'avoir ce genre de musique.
Ouais, c'est décalé par rapport à...
Ouais.
Et du coup, plus par rapport à l'idée d'un truc genre innocent, perverti, en fait, un truc assez classique dans les films d'horreur, comme, je sais pas, genre Chuck ou les poupées qui deviennent maléfiques, ce genre de choses.
Ouais, j'ai fait un autre film, c'était, j'ai pris la séquence dans Massacre à la tronçonneuse, où il y a Leatherface dans les bois, en train de chasser une fille avec son tronçonneuse. Et il y a un peu la même scène dans Blanche-Neige de Disney. Elle est perdue dans la forêt et j'ai juste fait du montage entre les deux. Ça marche nickel. Et... Bon, c'est facile. Mais...
Et du coup, tu dis souvent, tu viens de dire que tu étais en opposition ou que tu faisais un côté blague avec les Beaux-Arts, tout ça. Et souvent, dans la noise ou la harsh noise, le côté visuel, c'est quand même souvent des choses assez sombres, souvent, c'est souvent quand même noir. Mmh. Et toi, du coup, quand on regarde tes pochettes d'albums, tes cassettes, des choses comme ça, c'est des choses qui sont quand même très colorées, avec beaucoup de personnages. Et du coup, est-ce que c'est encore une fois juste pour faire une sorte de pied de nez comme ça au code très, très, très cadré de la noise, ou c'est parce que ça devient comme ça
Non, je pense que c'est... Bon, souvent quand je joue live, j'ai un problème avec faire un concert. Toute l'idée de théâtre, de faire une performance, d'être sur une scène, j'ai beaucoup de problèmes avec ça. Alors déjà, il faut trouver une solution hors la norme pour ça. J'aime pas l'idée qu'on est là pour... satisfaire les gens, pour plaire les gens, je suis pas d'accord avec ça. Je préfère, oui, c'est pour ça aussi des fois que je mets quelque chose un peu réactionnaire contre l'entertainment et un peu contre ça. Dans mes pochettes, je sais pas, oui, il y en a.
Par exemple, c'est plus sur le livre que j'aime, c'est Disneyland.
Ouais.
Où du coup, c'est vrai que c'est quand même très surprenant, il y a beaucoup d'orange, de fluo, de jaune, tout, c'est très, vif comme, oui, oui, comme couleur.
Il y a un côté psychédélique peut-être.
Oui. Oui.
Mais je pense que le, moi je pense que le, ce qu'on s'appelle du noise, ce qu'on a écouté tout à l'heure, c'est la musique super complexe, et super, il y a beaucoup de détails, et c'est pas noir et blanc, c'est vraiment...
C'est plus l'esthétique générale de la noise qui est souvent un peu présentée comme ça.
Si, si, mais ça c'est juste un truc générique, ouais, juste...
C'est comme le black metal quoi, c'est en noir et blanc.
Ouais, ouais. Voilà. On n'est pas obligé. Du coup, ouais. Non, mais j'aime pas le genre en général. Moi, je dis pas que je fais du noise. C'est pratique d'avoir un thème, mais à la base, je suis mon pote Tom Smith de Live and Shave in LA qui dit que le genre est obsolète. Il a dit ça dans 1800, quelque chose comme ça. Alors, c'est, il y a longtemps. Mais non, mais je. Je pense que la musique intéressante, ça vient pas des genres
prédéfinis.
Prédéfinis. Pas trop les étiquettes, quoi.
Et les, oui, c'est le travail des journalistes d'insister de trouver des nouveaux mots
pour qualifier.
Trip metal. Mais oui, on peut parler de trip metal, on peut dire que John Olsen a fait, de Wolf Eyes, a fait un interview où il a dit que le noise c'est mort, c'est fini, nous on fait du trip metal, et presque tout le monde a juste fait une réaction contre, non mais noise, non, moi je fais du noise, moi je, c'est important pour moi,
ouais.
Mais ils n'ont pas remarqué qu'il a dit trip metal, c'est trop ridicule comme
terme. Oui, c'est une blague en fait. Hein.
Et maintenant ils continuent d'utiliser ce terme stupide, à la con, et bon, ça marche, oui. C'est juste une question de mettre des étiquettes sur les choses.
Et c'est effectivement, c'est difficile en général de...
Ouais, mais je suis pas d'accord que tu dois être accessible dans une phrase. Moi, je pense que ce que je fais, c'est peu compliqué. Il faut mettre les choses en contexte. Et des fois, ça prend beaucoup de temps. Et c'est pas la musique pour. Si on veut une musique facile, on écoute du techno ou quelque chose. C'est pas ça. Je suis pas d'accord d'essayer de faire la musique comme ça accessible. Je pense que ça marche pas. C'est juste
c'est contre l'idée de divertissement à travers l'art en fait.
Dans les arts plastiques, on a beaucoup de temps pour les artistes pour comprendre le travail. Et je pense que ça peut être pareil pour la musique aussi.
D'accord. On va écouter un morceau de Kevin Drum que tu as choisi, qui fait partie de...
Oui, c'est ouais.
Décrépit.
Oui, d'un box set qui s'appelle Necroacoustique. Oui.
Donc c'est un musicien que tu aimes beaucoup.
Oui. Oui, c'est un de les laptop musicians que j'aime beaucoup. J'ai vu un concert de lui, et il a joué juste après quelqu'un qui a joué avec un MacBook, et le son c'était comme... Papier vert, MP3, et lui il a branché son Audi et j'avais l'impression que j'ai pris des champis magiques ou quelque chose, je sais pas, c'était excellent.
Ouais, écoutez Kevin Drum alors. Ouais. Retour dans les studios de Radio Campus Paris, dans l'émission Éter et Crac, 93.9, avec un instant un live de Mazona.
Ouais, Mademoiselle Anne Sanglante ou notre nymphomanie auréolée, c'est le vrai nom, enfin c'est Mazona, c'est l'acronyme de ce nom-là.
Mais Andy Volusk à nos côtés, tu me disais que c'était aussi un jeu de mots parce que Sona, ça veut dire femme.
Ona, ça veut dire
Ona, femme. Ça veut dire femme.
Et Mas, c'est comme masturbation.
D'accord.
Ah. Oui.
C'est un jeu de mots, je Madonna.
Également, ouais. Et donc, tu sais, quand il
parce qu'il y a aussi un de ses premières cassettes qui s'appelle Like a Vagina.
Oui, oui. Et donc, c'est quelqu'un qui fait des concerts excessivement courts. Tu disais qu'il avait fait un concert de 6 secondes quand il était venu
oui,
à Paris.
Oui, c'était à Paris il y a quelques ans et tout le monde était dégoûté. Sauf moi, moi j'ai trouvé excellent.
6 secondes.
Si le noise ne marche pas pour énerver des gens, mais la longueur, ça marche très bien.
Du coup, c'était bien quand même.
Il était où le concert?
Je me rappelle pas.
C'était aux instants Saviré, non, j'imagine.
Oui, sans doute.
Ouais, c'est souvent
6 secondes.
6 secondes, là, c'est pas mal, je trouve.
Un billet d'avion. 24 heures d'avion.
J'espère qu'il faisait une tournée quand même à ce moment-là. T'as passé beaucoup de temps au Japon, toi?
Oui, pas
dans
mal.
Dans les années 90, notamment?
Oui, oui. J'ai vécu là pendant 5 mois. Mais j'ai retourné 2 fois aussi. J'ai resté pas mal de temps chaque fois. Oui.
Et c'est à cette occasion que tu as fait une collaboration avec Anna Tarash?
Non, en fait, on a rencontré à Londres un concert de White House.
D'accord.
En fait, on se connaissait déjà par la poste. On envoyait des cassettes. Et la collaboration, ça a commencé dans le concert de White House. J'avais un petit dictaphone. Et
d'accord.
Et lui, il a gueulé dans le dictaphone pendant White House.
D'accord.
Alors j'avais ça au début et après, il m'avait envoyé des autres trucs.
D'accord, c'est une succession de morceaux hyper courts en fait, en général, genre de
oui,
10 à 30 secondes.
C'était vraiment du cut-up.
Ouais.
Et ça a pris 9 ans de le faire parce qu'on n'était jamais satisfait, surtout moi. Et j'ai fait plusieurs versions et ça est devenu plus en plus cut-up et plus en plus court. Et, ouais. Après, la technologie a évolué un peu pendant.
Du coup, ça a permis de faire autre chose aussi
et
travailler autrement. D'accord. Et tu as également collaboré avec pas mal de grands noms de la scène noise comme Coq ECP ou Soumail & Queen.
Oui.
Surtout dans les années 90. Moi, aujourd'hui, j'ai l'impression que tu fais moins de collaborations maintenant qu'auparavant.
Je suis en train de faire un avec Diagram A. C'est quelqu'un des États-Unis. Et ça, c'était. Beaucoup de gens ont dit qu'il faut absolument qu'on fasse une collaboration ensemble parce qu'on fabrique les machines un peu dans le même style,
dans le même esprit.
Un peu le même esprit. Et juste on a décidé, ok, tout le monde a dit ça et c'est vrai que ça va être cool. Alors, ouais.
D'accord. Mais dans les années 90, comme tu m'expliquais tout à l'heure, il y avait pas mal d'échanges de cassettes, enfin beaucoup d'envois par la poste.
Oui, oui, avant l'internet, oui. Bien sûr.
Donc il y avait un espèce de mini réseau noise international auquel tu participais.
Oui.
T'as été en contact avec Merzbow, tu me disais tout à l'heure, par exemple.
Si, oui, j'avais un Banana Fish magazine et il y avait beaucoup d'adresses dedans. Alors j'ai envoyé une de mes premières cassettes. Et bon, il a répondu, il a aimé la cassette, il m'a envoyé une cassette de lui et mais à l'époque il était
pas très connu.
Oui. Anna Tarash non plus
ouais.
Mais lui il était collectionneur à l'époque des magazines de bondage des années 60 et 70 alors j'ai trouvé pas mal au marché aux puces et j'ai envoyé en échange pour des cassettes oui mais c'était bien à l'époque on pouvait c'était une façon de se réveiller le matin tôt pour voir la boîte aux lettres. Maintenant, c'est que des factures. Non, ou des composants électroniques par eBay.
Et du coup, tu as envoyé beaucoup de collages aussi également avec l'aspect visuel et la musique, ça a toujours été des choses qui étaient
liées
à ton travail.
Oui, je travaille souvent dans un peu la même manière. J'envoie des images. Tu dessines dessus et tu réenvoies. Et c'est un échange comme ça. On a fait un truc par fax aussi.
D'accord.
Alors l'image s'est plus en plus dégradée. C'est vrai qu'on peut faire les mêmes choses sur Internet très rapidement maintenant, mais oui. Il n'y a pas beaucoup de monde qui fait comme ça.
Le mail art a un peu disparu,
oui,
en fait.
Oui, voilà. Mais j'étais pas vraiment dans le mail art, mais oui. Mais c'était différent, tu vois. Ça prend longtemps et c'est un peu... Tu attends 2 semaines pour une carte postale qui dit qu'il n'aime pas trop le dernier truc et il faut l'occuper de... c'est pas assez long.
Donc, ouais. Et il y a un disque que je trouve un peu à part dans ce que tu as sorti ces dernières années, c'est Killer Notes, qui est beaucoup plus du collage.
Oui, c'est un peu à part.
Et plus rythmique aussi.
Oui.
C'est une partie de le breakcore ou le
breakbeat. Ouais, dans l'esprit de Stockhausen and Walkman et plein de phonics comme ça, on peut dire. Oui, ça c'est un peu tous les morceaux que j'avais, le premier ordinateur que j'ai acheté, le premier PC que j'ai acheté, et j'ai habité dans un hôtel au banlieue avec rien à faire sauf me mettre sur le lit avec mon ordi et un casque et j'ai fait ce genre de... je pouvais télécharger les morceaux, alors j'ai juste utilisé l'internet comme une
ressource.
Oui. Et voilà, et je savais pas... J'ai fait quelques concerts, pas exactement concerts, mais comme des DJ sets, un peu comme ça, juste avec ce matériel, et c'était juste pour faire rire des gens. Et enfin, j'ai décidé de juste mettre tout ça dans un CD, et comme ça, c'est fini. C'est
derrière
fait.
Toi.
Ouais.
Et c'est un aspect que tu veux plus travailler aujourd'hui, du coup, est-ce que t'es plus rythmique
Non. Sauf que, non, je suis presque contre la rythmique, contre la... Dans l'électronique, je suis plus en plus dans l'électronique, dans les composants. Et c'est vrai que niveau de mathématiques, dans les composants logiques et tout ça, il y a les rythmes qui viennent naturellement. Et je suis pas contre le rythmique dans ce sens-là, mais
la construction de rythmique...
Exprès.
Ouais,
non, pas trop. Non.
Pourquoi ce rejet de la rythmique?
Parce que je pense que c'est trop facile. C'est une tu peux juste éviter regarder les sons eux-mêmes. C'est juste une façon de structurer les sons pour que tu fais pas trop attention à eux. Il y a trop de connotations que je n'aime pas.
D'accord.
Tu préfères laisser la liberté au son, quoi.
Oui. Je préfère la complexité. J'aime pas la musique qui est juste là pour danser ou pour...
Ok. Et du coup, j'ai une question aussi sur la relation justement entre l'improvisation et la composition dans ta musique, c'est-à-dire parce que vu que tu fais du circuit bending, on sait que les sons, ça peut être plus ou moins aléatoire. Et du coup, je voulais savoir si justement quand tu fais ta musique, quand tu fais des lives ou quand tu fais des cassettes ou des CD, justement quelle est la part d'improvisation et de composition, comment tu jongles avec ces deux données-là?
Je pense que c'est pas vraiment de l'improvisation, parce que la structure, c'est dans la fabrication des circuits d'abord, tu peux définir les limites, tu peux laisser les choses aléatoires, mais tu peux contrôler les paramètres de l'aléatoire aussi. Et moi je préfère laisser un peu les choses ouvertes à la hasard, mais c'est pas vraiment improvisation. Tu sais tous les paramètres que tu peux avoir, et tu peux choisir de fabriquer les machines où tu prends aucun risque quand tu joues. Ça, c'est aussi la musique rythmique. Mais moi, je préfère de laisser les risques un peu ouverts, mais Mais avec les caractères, tu peux choisir les caractères, des caractéristiques, de son, des choses que je sais que je vais pas faire soudainement un son de
trombone, quoi, ça,
trombone. Ouais.
Donc du coup, quand tu joues, quand tu composes, tu sais où tu vas, quoi.
Oui. Il y a les choses qui structurent même dans le montage, parce que c'est vrai que toujours j'enregistre beaucoup, même pendant que je suis en train de fabriquer une machine, je l'enregistre tout le temps. Et après, je prends des fois, il y a des sortes de... juste un truc de 2-3 secondes qui est comme le logo de la machine. Ouais. C'est vraiment comme le trademark et je garde les choses comme ça.
Et du coup, est-ce que... Je sais que Coil, par exemple, avait fait ça avec... avec l'ANS par exemple, et avec un de leurs autres projets dont j'ai malheureusement oublié le nom, où ils pensaient que leur machine analogique était habitée par une forme d'esprit, et donc du coup ils laissaient leur machine tourner jusqu'à temps d'avoir un certain type de son, et donc il y avait aussi une part de laisser aller en fait, de laisser les machines s'exprimer par elles-mêmes. Mmh. En fait.
Mmh. Il y a Raymond Scott aussi qui a fabriqué l'Electronium,
oui.
Parce que lui il a dit un peu controversé, mais il a dit qu'il n'aime pas la composition, et la composition c'est juste chiant, et que ça serait mieux de fabriquer, de laisser les machines faire ça. Et il a fabriqué cette machine qui fait générer la musique, pas aléatoire, mais qui change tout le temps.
Ouais.
Et tu peux l'arrêter quand tu aimes quelque chose. Et tu peux juste, tu peux appuyer sur un bouton et ça va rester un peu dans ce genre.
Dans ce style-là, ouais. D'accord.
Mais oui, ok, des fantômes dans les machines. Moi, je pense qu'il y a... On peut dire que c'est dans la nature, non, c'est parce que les composants électroniques, c'est toute la même matière que, c'est la Terre à la fin.
Transformée. Après,
mais... c'est un gros sujet, mais je pense que plutôt la relation entre les humains et l'électronique, il y a quelque chose d'un peu de mal qui arrive à cause de cette relation, cette interaction.
Tu penses que la technologie est nuisible à l'homme?
Non, mais ça peut nous faire nuisible, je pense.
Transformer l'esprit de l'homme vers quelque chose de...
Oui, un peu, oui. Well, dans les deux sens, mais je pense que... Je comprends pourquoi les gens disent qu'il y a des machines qui sont possédées. Il y a des choses pas naturelles dans le naturel. Je ne sais pas, c'est difficile d'exprimer.
D'accord. On va écouter un morceau que du coup tu peux aller choisir peut-être, Andy, parmi les disques que tu as ramené, si tu veux te lever.
Je veux bien mettre un morceau de Endon.
De Endon.
Tu vois le CD Acme Apathy Amok, oui.
Celui-ci.
Le deuxième ou troisième morceau.
Qu'est-ce que c'est, quel est ce groupe?
C'est un groupe japonais. Wow. Si je paraphrase une review, c'est Mika de Grunt qui a écrit ce sujet. Et aussi une autre review par Kohei de Pain Jerk.
Yes.
Et les deux, ils disent la même chose. Ils disent que si tu penses à Hideo Kaidan, qui était un groupe japonais free noise, on peut dire.
Un peu les premiers.
C'est un peu les premiers, oui. On peut dire que tout ça, ça vient de free jazz.
Ouais.
Et c'est toujours un peu dans la tradition de free jazz.
D'accord.
Mais Endon, il fait la même chose, mais mise à jour, ça veut dire que la batterie, c'est free, mais ça veut dire que ça ressemble à black metal free ou grindcore free. La guitare aussi, il y a des choses que peut-être l'avant-garde ou les académiques vont rejeter, genre la culture populaire comme grindcore ou black metal, et eux, ils embrassent tout ça. Et,
d'accord. Ouais. On va écouter ça tout de suite.
Ils sont assez puissants en direct aussi.
D'accord. toujours à l'écoute des Terres et Cracks sur Radio Campus Paris, en compagnie d'Andy Bolus et Vil Moisture, avec deux morceaux de Endon, groupe japonais que tu as ramené, bien brutal, que tu as vu donc au LUF à Lausanne.
Oui. C'était le dernier concert du festival, ouais. 5 jours de festival, et ça à 5 heures du matin.
belle clôture.
Et en fait, c'était pendant toute la journée, il y avait 6 ou 7 gens japonais dans le backstage, super sympa, mais on n'a pas compris qui c'est, qu'est-ce qu'il fait, on n'était pas prêts du tout.
Pour ça.
Et le chanteur, il est super timide, mais super gentil, mais sur scène, il se transforme en vrai psychopathe, il a cassé une bière sur sa tête dans la première minute, saigné partout, putain... Parce qu'il a bu une moitié d'une bouteille de gin juste avant d'aller sur scène.
Une bouteille de gin en plus.
Il a pu ressentir la douleur, quoi. Ouais. le lien que je fais entre, je trouve, ta peinture et ta musique, c'est, notamment dans Disneyland, c'est le côté très saturé, en fait. Plein de couleurs, on voit qu'il y a énormément de couches, et un peu comme dans la noise, il y a un côté genre très massif.
Il y a aussi le côté collage aussi, mais bon.
Côté collage, ouais, c'est les deux aspects. Et du coup, comment tu fais le lien entre les deux et de quelle manière t'associes, de quelle manière tu travailles?
Surtout
le collage, plus que
mais
pour
j'aime pas trop forcer les liens non plus.
Ouais, c'est deux choses qui sont différentes pour toi.
Pas complètement différent parce que ça évolue au même temps, mais et c'est vrai qu'il y a. Bon, dans mes dessins, il y a pas mal de références sur la musique aussi. Je réutilise les vieux pochettes
de disques.
C'est connecté, mais c'est pas. Je suis pas obligé de mettre toutes mes influences chaque fois sur la même chose.
Ouais. D'accord. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu de trois aspects dans ce que tu fais visuellement. Il y a du collage, comme tu le disais, de la peinture pure et une idée de transformation, c'est-à-dire que tu prends un visuel que tu sur lequel tu repeins, sur lequel tu travailles.
C'est un peu tout ça, c'est un peu mélangé parce que des fois ça ressemble à un collage, mais en fait c'est tu fais à la main.
Ouais.
Voilà. Des fois c'est original, mais c'est une copie, ou des fois c'est pas une copie, mais ça ressemble à une copie.
D'accord. Et t'as bien joué du coup avec cette espèce d'ambiguïté.
Oui.
Et du coup, t'as sorti deux livres au dernier cri.
Oui, c'est ça.
Il y a une maison d'édition à Marseille.
Group Sex Explosion, qui est vieux, ça va être
des 90.
Oui, il y a 12-13 ans, quelque chose.
Et Disneyland, qui est plus récent, du coup.
Oui, mais ça, c'est déjà il y a...
C'était en 2007, ans. Non, quelque chose comme ça,
6 ans, oui.
Et comment, du coup, tu as rencontré Paquito et comment tu as commencé à travailler avec eux?
Je pense que j'ai rencontré par Avery Vox.
Ouais.
Il m'avait montré des vieux derniers cris. Je pense que c'était même un disque de Paquito quand il était dans un vieux groupe, Gaki Deka ou quelque chose comme ça. Mais bon, Julien était chaud que je vais aimer ça.
Et c'est comme ça que du coup que vous êtes rencontré plusieurs fois, t'as fait des expositions avec lui aussi également
Non, j'ai pas vraiment fait de...
Non,
pas vraiment.
D'accord.
Avec Julien? Avec
Rilis? Non, avec Paquito. Vous avez mis un peu dans cette espèce de... Il y a un petit milieu autour du dernier cri dans lequel t'es...
Non, pas, partie. Mais j'ai fait un expo l'année dernière avec Fred Ox aussi.
Ouais.
Mais non, j'ai pas beaucoup exposé, non. Plutôt, j'ai mis des pages dans les Hôpital Bru. Mais non. Non, pas des expos.
D'accord. Du coup, c'est quelque chose que tu voudrais peut-être un peu plus approfondir, justement, exposer ton travail visuel, ou c'est quelque chose que tu as fait comme ça juste une fois et tu te dis pourquoi pas?
Ça arrive un petit peu. Non, mais
j'ai fait des autres expos, mais pas reliés avec le dernier cri.
Ouais.
Mais en octobre, j'expose à Copenhague avec Sven Balslev, qui a fait une sorte de... C'est un peu comme version de Nyekri, mais danois.
D'accord.
Qui s'appelle Smittakilda.
D'accord.
Il gère le, ouais, il est une des personnes qui gère Mayhem.
Oui, oui, oui. Le...
Et connecté avec Prochain Isolation. Et je fais, normalement, on fait une... On ne sait pas encore si c'est une collaboration ou si c'est juste nous deux exposés en même temps.
D'accord.
Mais on est en train de décider ça. Et, il y a la galerie déjà. Et,
d'accord. Ouais. Parce que l'année dernière, tu as exposé avec, à la galerie Laser Quest à Paris.
Oui, j'ai fait l'expo que j'ai aussi fait à l'UF,
ouais.
Là où j'ai vu Endom.
À Lausanne.
J'ai décidé de faire le même expo à Paris,
mm-hmm.
pour les gens qui ne sont pas venus en Suisse. Ouais.
Et c'est à cette occasion que, dans la continuité, tu avais fait un premier atelier de circuit bending à la galerie.
Non, c'est pas la première fois.
C'est pas la première fois, mais... Non.
Mais oui, j'ai fait un atelier de détecteur de fantômes.
Ouais.
C'est une sorte de radio qui capte les ondes électromagnétiques.
D'accord.
Et, tu fabriques ton propre antenne. Et bon, il y a quelqu'un qui a juste réussi à capter France Inter ou quelque chose. Mais bon.
Vous n'avez pas trouvé de fantômes du coup à la galerie Laser Quest?
Non, non. Pas trop. Bon, les fantômes vivent dans ce squat là à l'époque, mais.
Et du coup, depuis le début d'année, tu fais un atelier au lycée autogéré de Paris?
Oui, oui, je fais ça depuis le début de l'année, chaque jeudi. On a commencé avec du circuit bending parce que c'est vrai que c'est une bonne entrée pour dans l'électronique pour les gens qui comprennent rien. Et,
ouais.
Mais on a avancé un peu, c'est un peu grâce à un livre de Nicholas Collins qui s'appelle Handmade Electronic Music, je pense. Mm-hmm. Qui doit vraiment être traduit en français. Moi, j'ai déjà traduit quelques paragraphes, mais... bon, ça commence aussi avec circuit bending, et après, ça va un peu dans les petits synthés, les mm-hmm. oscillateurs, les... oui, et on a commencé avec les élèves, on a réussi à fabriquer des petits oscillateurs, les synthés, les distorsions,
d'accord.
Des choses comme ça.
Et du coup, il y a un premier rendu qui a eu lieu lors de Sonic Protest il y a 3 semaines.
Oui.
Et vous refaites un concert le 16 mai.
Oui, ok. Ah oui. Oui,
la partie promotion.
Oui. Oui, avec Sonic Protest, j'étais invité de faire venir quelqu'un, et j'ai mon pote Ryan Jordan à Londres qui fait du travail assez intéressant dans l'électronique.
Mm-hmm.
Par exemple, il fait un atelier qui s'appelle Derelict Electronics. Je ne sais pas comment traduire Derelict, mais c'est comme Derelict, c'est un peu comme ruiné, électronique ruiné.
D'accord,
et c'est pour fabriquer les petits amplificateurs et les sortes de microphones, mais c'est juste avec les pierres métalliques et les fils.
D'accord.
Pas de composants électroniques commerciaux. C'est un peu comme dans la première guerre, il y avait des gens qui ont réussi à fabriquer les radios cristaux. C'est un peu connecté avec ça.
D'accord.
Et lui, il fait aussi live une sorte de... J'aime pas le mot techno, mais ça revient... Dans ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il y a du rythmique dans le mouvement des électrons quand on fabrique les circuits. Et lui utilise un stroboscope, lumière, et qui déclenche les oscillateurs.
D'accord.
Ça fait une sorte de musique rythmique, mais super à la base et super. C'est après minimal, je ne sais pas le mot vraiment. Mais c'est vraiment dans le côté trance. Ça t'a mis dans un état vraiment bizarre. Bon, on verra.
D'accord. Et donc toi,
lui, quand il était teenager, il allait dans les free parties et les choses comme ça en Angleterre. prendre la drogue et tout ça. Et je pense que pour lui, il y a un côté qu'il veut bien faire ça, mais plus extrême et plus vrai et plus sans tout le côté hippie, tribal, tout ça.
Et donc, tu joueras avec les élèves à ce moment-là aussi
Oui, on va, je pense qu'on va refaire une sorte de jam session ensemble. Et il y a aussi l'atelier System B,
qui est animé par Arnaud Rivière.
Oui, qui il a fait aux instants
chaque semaine.
Ouais.
Ok. Qui est aussi la fabrication d'objets musicaux à partir de ce qui est récupéré en fait. Aussi.
Ok.
Donc un esprit qui est assez proche de ce que tu as pu faire.
Oui.
Et du coup, d'où t'es venu un peu cette fascination pour les rebuts, le côté usé, jeté. Seconde main des objets.
Ouais. C'est la pauvreté.
La pauvreté.
Non, mais. Oui. parce que je ne pouvais pas acheter des composants, des fois c'était vraiment ça.
D'accord.
Mais. mais je sais bien qu'il y a un côté politique aussi, si on veut.
Une forme de recyclage,
que,
en fait.
Oui, qu'on peut dire que. Ah, mais. Je pense que je suis un peu contre les produits commerciaux qui sont finis quand c'est vendu. Toi, tu n'as pas le droit d'ouvrir la
machine. D'approprier l'objet. Quoi.
Oui, et de faire ce que tu veux avec. Et la valeur de l'objet, s'il y a un composant qui manque, ça ne coûte rien. Bon, il y a le côté un peu Mad Max, peut-être aussi, post-apocalyptique. Qu'est-ce qu'on va faire si toutes les usines ferment et on doit utiliser que des composants qui restent sur la Terre et, il y a des idées comme ça que j'aime bien. Oui.
Donc, c'est pas que par écologie, quoi. C'est
pas non,
par
écologie. Ah non, non.
Loin de là.
Mais aussi des fois, il faut dire que les vieux composants sont vachement mieux ou vachement intéressants.
Ils sont de meilleure qualité.
Les interrupteurs qu'on achète dans un magasin d'électronique maintenant, ils sont pas terribles. Mais si on récupère un ancien ampli avec les vrais switch, super bon design. Pas avec le, comment dire, built-in obsolescence.
Ouais, l'obsolescence programmée.
Ouais. Et même, il y a des gens qui travaillent vraiment chez par exemple, les lampes, qui font des effets avec les lampes. Avec les lampes qui n'étaient jamais designées pour ça. Mais qui fabriquent les circuits qu'on ne peut pas...
réutiliser.
On ne peut pas répliquer avec du silicone.
D'accord. On va écouter un dernier morceau que tu as choisi parmi la pile de CD qu'il y a.
Alors, est-ce qu'on peut écouter Putrefire?
Putrefire, oui.
Ça va être un peu aléatoire, je pense.
Premier morceau qu'il y a de CD.
Ouais, ok, the green one.
Yeah. Putrefire, c'est un groupe.
C'est un ancien ami à moi. Je le connais depuis 25 ans. On a travaillé ensemble chez le nom Olympic Shipman.
Ouais.
On a fait un double vinyle qui est réissu d'une cassette qui a été sortie en 95, je pense.
D'accord.
Et, moi, j'aime bien Mark Durgan de Putrefire. Il a joué récemment aux instants, je pense.
Oui.
Lui, il travaille aussi dans l'électronique. Il bosse pour Analog Devices, je pense. D'accord. Plusieurs compagnies qui ont fabriqué les effets et les choses comme ça.
D'accord. On va écouter ça tout de suite. Thank you. Toujours dans direct sur Radio Campus Paris dans l'émission Éther et Crack, avec à l'instant un extrait d'un live de Putrefire choisi par Andy Bolus, donc un groupe avec qui tu as collaboré il y a quelques années.
Mm-hmm. Ouais, il y a 20 ans.
20 ans. et oui, je voulais te parler de la série de jouets que tu avais réalisé pour Luc Ferrari, le grand compositeur contemporain.
Mm-hmm. Oui, je ne le connaissais pas vraiment. J'ai juste rencontré un après-midi. Il était en train de faire un disque avec Noël Achoté,
ouais,
que je connais un peu. Mm-hmm. On a enregistré Radio France avant ça avec un autre groupe. Et Noël a parlé de moi et il m'avait demandé de fabriquer des jouets, et j'ai amené dans le studio. Et Noel, je me rappelle, il avait des sex toys, des vibrateurs, les choses comme ça.
Ouais.
Et il avait les gros conga
ouais,
drums, et il a mis chez les drums, ils ont vibré. et Luc a rigolé beaucoup, alors j'étais chaud dans cet instant qu'il était super ce mec.
D'accord.
Pas du tout académique.
Oui, c'est l'image qu'il a, parce qu'il a fait partie du GRM. Et,
voilà. Ouais. Mais donc, il est vraiment. Il était vraiment contre tout ça, je pense.
Ouais. Ouais. Contre l'aspect académique.
Ouais.
Et du coup, il a utilisé tes jouets pour une composition, c'est ça?
Voilà, oui, qui s'appelle Impro Microacoustique ou quelque chose comme ça. Ouais.
Qui est une des dernières qu'il a fait, du coup.
Oui,
avant de mourir.
Et j'ai rencontré aussi sa femme Brunhild,
ouais,
qui a présenté un morceau Souffle Continu il y a pas longtemps. C'était un morceau qu'elle a fait avec Luc, mais ils avaient pas fini. Mm-hmm. Et elle a fini tout seul. Et on a parlé un peu du sujet de lui.
Bon, ouais. D'accord. C'était un beau morceau ce que tu me disais tout à l'heure.
C'est oui, oui, c'était super beau. Oui, une sorte de drone, mais un peu féminine, on peut dire.
Ouais. La drone féminine, c'est difficile à décrire, j'imagine.
Ouais, comme Tommy Karenan dit, c'est des noise grannies, non, drone grannies.
Drone grannies. Ouais. Et du coup, quelles sont les prochaines sorties pour ton projet?
Oh,
tu me parlais de la collaboration tout à l'heure.
Il y a une lathe cut de deux lives que j'ai fait pendant Sonic Protest. En
ouais.
Une lathe cut LP avec une version cassette. Je pense pour les gens aux États-Unis,
ouais,
parce que maintenant le vinyle c'est trop cher d'envoyer à la poste, qui s'appelle World War V Maggot Bomber.
Ok.
Et ça va être une édition un peu limitée, je pense.
Donc t'as réalisé la pochette
ouais,
de ce disque.
Oui.
D'accord. Et en live, du coup, tu seras le 16 mai au lycée Autogéré de Paris.
Oui. Et le 23 mai à Barcelone. Aussi.
D'accord, et donc tu joues avec la fille de Vagina Dentata Organ, c'est ça?
Non, on ne joue pas ensemble,
ah, mais ensemble,
elle sera là.
Oui. Elle sera là, oui. D'accord, ok. Très bien, ben, merci beaucoup Andy d'être venu
merci
ce soir à notre côté.
Merci beaucoup.
Et puis nous on se retrouve dans deux semaines peut-être avec un montage sur Sarah Record, réalisé par Camille, qui n'a pas ouvert la bouche.
C'est ce que je me réservais pour cette phrase.
Cette phrase. T'es partie à Bristol ce week-end.
Ouais, je suis partie ce week-end. Enfin, on était à deux et on a été à un festival Sarah, en l'honneur de Sarah Record, qui est plus en activité depuis des années et des années maintenant, plus de 25. Enfin, plus de, je sais plus, mais ça s'est arrêté en 1995, je crois. Voilà, et donc on a eu des petites interviews inédites et on a assisté à des lives, on a rencontré plein de gens, c'était super intéressant. Voilà.
Et donc t'as deux semaines pour monter tout ça.
Exact, tu m'as mis trop la pression là. Donc.
Tous les auditeurs attendent. Très bien, on verra si on a invité ou pas. En tout cas, il y aura forcément quelque chose autour de Sarah Record. D'ici là, portez-vous bien. Je sais pas s'il y a des concerts cool. Si, le 18 mai, il y a un concert bien à l'Espace B, organisé par Yann Drake, le nom de jazz, où il faudra aller. C'est tout ce que je me souviens.
Radio Campus 93.9 à 10h02 22h.